carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Valérie Gabaye, bonjour.
Bonjour.
Vous avez commencé par étudier le jazz et la comédie musicale avant de vous lancer dans une carrière lyrique.
Absolument.
Vous avez même été nominée aux Victoires de la musique en 2006 dans la catégorie Révélation lyrique de l'année.
Et oui.
Et puis, parallèlement, vous développez une carrière de concertiste. Alors ce soir, je viens d'entendre au Théâtre du Châtelet, Les Vêpres de Monteverdi. Vous chantez donc en ce moment Les Vêpres de Monteverdi, une œuvre majeure à la charnière de la Renaissance et de la musique baroque au Théâtre du Châtelet, un des plus beaux exemples de musique sacrée dans l'enceinte d'un théâtre. Certes musical, mais c'est dans l'enceinte d'un théâtre. Alors à la direction musicale, Jean-Christophe Spinozzi, et à la mise en scène, Oleg Kulik, plasticien, auteur de performances, écrivain, sculpteur, photographe, qui connaît une carrière internationale retentissante. Une rencontre, bref, tout en surprise pour ceux qui assisteront aux 5 représentations données au Théâtre du Châtelet entre le 24 et le 29 janvier 2009. Inutile de présenter quand même Les Vêpres de Monteverdi, considérées comme une œuvre majeure. Pour vous, Valérie Gabaye, quelle est la force de cette musique ?
Écoutez, je pense pour moi que c'est l'architecture de cette musique. C'est une construction qui est un véritable casse-tête, mais qui est... à mon avis, absolument extraordinaire. On est au niveau de Bach, par exemple, ou de choses comme ça, extrêmement complexe et en même temps extrêmement sensuel. Et ça, c'est toujours très, très intéressant d'arriver à mêler comme ça. C'est un peu comme un... Je ne voudrais pas parler de nombre d'or, mais on arrive un peu à une sorte de perfection architecturale dans la musique qui est un peu unique, il faut bien dire. C'est d'une inventivité totale. C'est totalement relié au texte. Beaucoup de choses sont basées sur le continuo. Les ensembles sont... des espèces de pyramides gigantesques de sons comme ça qui se mêlent. Et c'est justement le mélange de tous ces sons et de toutes ces sonorités, aussi pures que possible. Donc on a d'ailleurs un énorme travail à faire sur la justesse et sur le fait nous-mêmes, en tant que solistes, de s'effacer plus que de véritablement produire une performance, ce qu'on pourrait dire soliste.
Oui.
Là, on est soliste, mais on doit vraiment absolument se mélanger. Et cette œuvre, je crois... fonctionne uniquement sur l'alchimie des voix, l'alchimie des sons, l'alchimie des corps, pour que tout soit absolument ensemble, au même moment, dans une sonorité...
Dans une communion.
Une communion et une sonorité unique presque. Voilà, où on discernerait presque plus, justement, les voix solistes. Et ça, c'est très très beau à faire, c'est un excellent travail, un magnifique travail. Voilà, et Monteverdi... un maître absolu. Dans ce genre de choses, je ne crois pas qu'on fait beaucoup mieux pour une œuvre comme ça. Et en même temps, c'est très festif. C'est à la fois intellectuel et festif. Voilà ce que je dirais.
C'est ce qui vous séduit le plus dans cette œuvre ?
Ah oui, je crois. Parce qu'il y a des mélanges de sensualité incroyables. Et puis ensuite, on arrive dans une rigueur implacable, absolument impitoyable pour nous. Donc il y a un vrai, vrai travail de lâcher prise et, pour certaines pièces et puis de rigueur pour d'autres.
C'est habituel dans votre travail ou c'est...
C'est très habituel parce que j'ai beaucoup, beaucoup fréquenté Monteverdi.
Oui.
J'ai chanté Les Vêpres il y a longtemps avec Jean-Claude Malgoire. Et ça reste toujours
un bonheur.
Un bonheur, un sommet, une difficulté, un challenge. Il y a tout se mêle. J'ai beaucoup fréquenté l'opéra de Monteverdi, en fait, qui est aussi très architecturé, mais beaucoup plus précisément dans la sensualité, le théâtre, la théâtralité pure, le drame, etc. Donc là, c'est plus tout à fait... On peut être un vrai soliste. Voilà.
Alors, chanter Les Vêpres de la Vierge de Monteverdi, c'est déjà une émotion forte pour un chanteur. Alors, mise en scène par Oleg Kulik, l'émotion est-elle décuplée ? Je sais que vous êtes passionné par la mise en scène.
C'est vrai que j'adore la mise en scène. Le problème, c'est quand on est au sein d'une œuvre en tant que chanteur, on profite très très peu,
oui.
Toujours.
Oui.
On est très contraint, on est plus des passeurs, là en l'occurrence. On a un rôle dramatique qui est très très, pas faible, mais il est en retrait.
Oui.
Par définition, on est plus là pour passer le son et la musique que véritablement pour agir. C'est normal, c'est une œuvre religieuse.
Même
au départ.
Dans les costumes,
on est plus, voilà, on est très neutralisé en un sens, ce qui est bien. Moi, ça me gêne pas. Par contre, on profite peu du coup de tout ce qui se passe autour de soi. Il y a énormément d'informations et sur plusieurs plans comme ça, on rate énormément de choses. Donc, je pourrais pas vous dire vraiment ma sensation de la mise en scène. On est trop dans notre petit monde là, chacun. C'est très dommage d'ailleurs. Il faudrait qu'on arrive à la voir de l'extérieur.
Mais pourtant, comme là, par moment, vous êtes au cœur du public, au cœur de l'auditoire.
Oui.
Vous chantez dans des espaces du théâtre tout à fait. Pas inhabituels, mais c'est peu courant. Que ce soit sur scène, que ce soit
Dans la salle.
Bon, ça vous donne un rapport au public et ça place quand même le chant au cœur.
Ça place le chant au cœur, mais on est en même temps, comme on est sonorisé,
oui.
On est très préoccupé par le son de notre voix et la manière dont c'est rendu dans la salle.
Parce que comme il y a beaucoup de lumière,
on aperçoit des choses, on se voit, mais on se voit pas les uns les autres déjà, oui. Très très peu. Sauf quand on est sur scène, bien sûr. Les moments les plus agréables, finalement, pour nous, si je dois bien être honnête,
oui.
C'est quand on est quand même sur scène un petit peu rassemblés et qu'on n'a pas seulement les voix amplifiées. Voilà.
Il y a de très beaux tableaux collectifs justement. Quels sont les moments que vous préférez ?
Je crois que le moment le plus magnifique là pour moi de ce que j'ai vu, c'est le duo Séraphim, avec les deux ténors perchés sur la tour, sur leur tour respective, avec le feu derrière, ces différents plans comme ça, additionnés, ça c'est vraiment magnifique, les reflets sur le... Voilà, exactement, ça je trouve ça absolument magnifique. Pour le reste, je dois dire qu'on est très concentré sur ce qu'on fait. On essaye de donner le mieux pour la musique.
Quand vous chantez, quels sont justement les moments où vous intervenez ?
Ben là, j'interviens quasiment
partout.
Tout le temps, à part les moments où on a choisi de ne donner ça que au cœur, Nisi Dominus ou Lauda ou tout ça.
Ouais.
Le reste du temps, on est plus ou moins omniprésent chacun.
C'est quand même un gros travail.
C'est une performance. C'est une grande concentration. C'est pas très très exigeant vocalement,
oui.
Parce que c'est pas de la musique et c'est pas la Traviata, c'est pas du répertoire plus tardif, mais c'est très exigeant pour la justesse et puis le.
Oui, puis cette mise en retrait, tout ce qui n'en est pas une vraiment.
Oui, c'est ça, c'est vrai, c'est exactement ça. Ça réclame un équilibre qu'on recherche sans arrêt, donc comme tout équilibre. Donc c'est jamais facile de maintenir un équilibre. Donc on est très concentré.
Avez-vous l'impression de participer à une nouvelle liturgie ou à une liturgie du 21e siècle ?
Ça, c'est difficile. J'ai l'impression de participer à quelque chose de très particulier. Ça, c'est évident. Je trouve que Oleg a fait un magnifique travail sur le rapport au public, précisément, dont vous parliez. La spatialisation, évidemment, et le fait de rompre ce côté extrêmement codifié qu'on a dans la musique classique, tout le monde sur scène, le chef dos au public, et le public regardant, etc., et écoutant. Là, c'est complètement différent, c'est vrai qu'on est dispersé, on travaille énormément sur ça, le chef se retourne vers le public, ce qui est rarissime.
Alors, il a
un beaucoup
miroir.
Déconstruit, tout est en miroir, comme
pouvoir
ça.
Pouvoir diriger quand même l'ensemble.
D'un côté puis de l'autre, un miroir sans teint, il y a tout un dispositif.
Le cœur est situé
tout à fait.
La plupart du temps tout en haut.
Tout en haut, et voilà, exactement. Et nous, on est dispersés beaucoup dans la salle, on va, on vient. Et le fait d'être sonorisé, pour le coup, est extrêmement intéressant, je trouve, dans une salle comme ça, qui n'est pas a priori faite pour les vêpres. Il faut être honnête, ça peut très bien marcher, mais je crois que Monteverdi avait vraiment écrit pour des églises, et que quand on écrit pour quelque chose, on fabrique, il y a une chimie du son qui se produit dans des églises qui ne pourrait pas se produire ici, donc c'est très bien qu'on soit sonorisé. Donc là, j'ai l'impression de participer à quelque chose d'assez unique, voilà. Je ne sais pas si ça s'est fait ailleurs ni quoi, mais je pense qu'Oleg, justement, il a un côté peut-être un peu autodidacte, précisément dans la musique classique, et qu'il a voulu se faire son monde à lui.
Vous avez discuté musique avec lui ?
Malheureusement, il ne parle ni anglais ni français,
oui.
Donc il y a toujours une interprète et on n'a absolument pas pu discuter.
Pas
il y a trop de monde, il a trop de choses à faire, il est très occupé, il a énormément de choses avec la technologie, les choses, donc ça va être très difficile. Hélas, on n'a pas pu discuter, non. Mais je sais que c'est une des premières œuvres classiques véritablement qu'il écoute. Donc,
elle est magnifique.
Voilà.
Et vous vous souvenez de la première fois que vous avez entendu les vêpres ?
Quand j'ai dû le travailler, il y a 10 ans pour Jean-Claude Malgoire.
Ouais.
Ce n'était pas une chose que j'avais vraiment écoutée avant. Non, j'avais plus écouté les opéras, mais pas les vêpres. Donc au moment où j'ai dû le travailler, je l'ai écouté. Voilà.
On a aussi l'intervention d'un ensemble...
Constitué pour la circonstance, en l'occurrence. Ouais. Vous voulez dire l'ensemble Mathéus ?
Oui, l'ensemble Mathéus, et, et puis aussi les trompes tibétaines.
Oui. Mais ça, on vient de les voir, nous, c'est la première
c'est
fois.
C'est la première fois que vous les voyez. Tout à fait. Ils sont situés dans
sous
la
chef.
En dessous du chef, qui effectivement n'est pas du tout à sa place habituelle, puisque là, il est sur scène, surélevé un peu.
Il est sur un promontoire, sur une espèce de proscenium, oui.
C'est la première fois que vous entendiez ce soir l'ensemble des Furpa ?
Oui, sauf que nous, on est dans nos loges à ce moment-là.
Ah,
et qu'on ne les entend pas.
D'accord.
Vous voyez ce que je veux dire ? C'est des mondes très séparés, là. C'est ça qui est terrible dans le fait d'être chanteur, c'est qu'on court à nos loges pour se détendre, revoir un peu les costumes, les choses comme ça. Et du coup, on n'a même pas de retour de ce qui se passe.
D'accord.
À la limite, si on ne nous le dit pas, on ne sait pas ce qui se passe dans la salle, comme c'est la première fois aujourd'hui en plus.
Je vous raconterai.
Voilà. Donc, c'est vraiment, en un sens, c'est très, très frustrant, pour le coup, de ne pas être aux premières loges et d'avoir une vue d'ensemble.
Comment vous avez endossé ce costume créé pour le spectacle ?
Il est très confortable déjà. Ça, c'est une chose qui est souvent assez rare. Et c'est assez pratique, on va dire.
Tout le monde est costumé.
On est tous costumés.
Y compris le chef.
Voilà, je crois que c'est moins confortable pour certains musiciens, d'après ce que j'ai compris, leur chapeau. Nous, on a beaucoup, beaucoup de chance. Mais il y a un côté un peu officiant comme ça, qui est plaisant. Ça nous met tout de suite dans une ambiance et un rôle, en un sens de passeurs musicaux neutres, rigoureux, comme ça, qui est très, très bien. On se croit véritablement dans un office religieux, dans un monastère ou quelque chose. Ça pose tout de suite la personne. Le tissu est assez lourd, raide.
Un petit côté monacal.
Très monacal. Et ça convient très, très bien, je trouve. C'est très
bien
choisi.
En même temps, c'est chaleureux, parce que les costumes que vous portez en blanc, on sent que ce sont des tissus épais, etc. Ça...
C'est pas du tout non plus l'austérité pour l'austérité. Voilà. C'est bien, je crois qu'ils sont bien réalisés, ces costumes sont beaux.
Alors comment vous interprétez-vous le fait tout d'un coup de se draper, enfin pas tout d'un coup, mais progressivement, au fur et à mesure qu'on rentre dans l'œuvre, que le rouge envahisse la scène, envahisse justement aussi les costumes en se drapant au fur et à mesure de rouge. Qu'est-ce qu'il a voulu dire et vous, comment vous le ressentez ?
Écoutez, il nous a pas donné beaucoup d'explications, on a cru comprendre qu'il était très très touché par le peuple tibétain et sa lutte pour l'indépendance ou l'autonomie, etc. Donc je crois qu'à partir du moment où on arrive au morceau numéro 12, je crois, avec Marie-Stella, on arrive véritablement à une sorte d'hommage au combat des Tibétains. Et donc, comme vous avez entendu, les bruitages sont parfois très violents. Juste avant le Audi Chelum, par exemple, il y a des bruitages extrêmement violents. Il y a quand même un parfum un petit peu de mort, d'oppression, de supplice, etc., qui parcourt l'œuvre par le biais de Oleg, qui est assez intéressant. Voilà, il n'en a pas fait une œuvre sucrée, quoi, en gros. Il a vraiment mélangé les choses et je crois que ça lui tient beaucoup à cœur de montrer un petit peu. Donc je pense que c'est une sorte une petite minute de silence, vous voyez, dédiée, que tout se drape doucement de rouge.
Et vous, dans le chant,
nous,
non,
on ne pense pas. On est obligé d'être
dans
contraire.
Cette rigueur que
je crois que souvent on montre plus par le retrait. De toute façon, on ne peut pas, là, d'abord parce que Jean-Christophe demande une interprétation assez réservée pour certaines pièces. Beaucoup de nuances piano, beaucoup de choses comme ça. Donc on ne peut absolument pas se lâcher et partir dans du pathos. C'est absolument impossible. Mais la musique parle d'elle-même, c'est ça qui est formidable. Il n'y a pas besoin. Il n'y a vraiment pas besoin.
Merci beaucoup.
Je vous en prie, avec plaisir.